Par exemple, c'est l'histoire de billets à intérêt à 3 mois, 6 mois, 1 mois, 2 mois, hein, dont on a parlé tout à l'heure. J'en sais rien, parce que tout le monde me dit, mais l'intérêt était inclus dans le versement de départ. Je vois pas ça. Je vois des gens qui me disent payable à 1 mois, intérêt courant à la date de 1 mois. Et c'est codé. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. En particulier, il y a des très nettes différences dans la façon. Alors évidemment, là, je l'ai pas fait, hein, ça me prend 10 ans de tout rentrer et puis de faire une statistique, mais on devrait pouvoir voir des différences très nettes sur le traitement accordé aux marchands et aux non-marchands. Mm-hmm. On est de la profession, on est en dehors de la profession.
Là, c'est l'inverse de. Non, mais de la part de c'est l'autre face du miroir par rapport à
de la confiance qu'ils inspirent.
Ah, en plus. Mais si tu veux, tu ne traites pas pareil quelqu'un qui est de la profession et un client. Même au niveau... C'est assez étonnant, parce que pour des sommes très similaires, par exemple, ça va tout de suite être formalisé entre professionnels, par des reconnaissances de dette, on va dire, bon, il y en a pour 3 mois, après, il faut que tu payes, des choses comme ça, beaucoup plus qu'avec les clients. Les clients, ça va être, bon, c'est du tout, on ne bouge pas trop, on ne va pas imposer des normes, etc., vous paierez quand vous pouvez, etc. Donc il y a des codes sociaux très stricts en réalité.
Ce qui est assez intéressant, comment ça perdure, parce que moi, ce que tu montres là, la première, c'est exactement ce que je trouve à l'ordre de 45.
Oui, et
chez les clients par client, c'est exactement ça. Donc c'est un truc qui est un peu surprenant.
Non, alors j'avais un grand oncle à Boulogne-sur-Mer qui vendait des machines à laver et qui fonctionnait exactement pareil, et je pense que machin, j'aurais une Vaucluse. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin d'anthropologie sur les années 50 qui raconte exactement la même chose sur les piétons du village, et je pense que c'est des comportements qui ont perduré effectivement dans le commerce de détail. Mais la différence, c'est que c'est plus comme ça que tu deviens riche.
C'est pas
le gros truc. Je sais quoi, ils sont devenus
riches. Mais juste quand tu dis communautaire, moi c'est là où j'ai mon souci.
La communautaire.
On peut voir après dans quelle communauté, parce qu'en plus on parle de commerce international. Là.
C'est plus large que
c'est plutôt dans les marchands en fait. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a une no-merchant.
Il y a une no-merchant, oui.
Et effectivement, tout le problème que j'ai en commun avec toi, c'est de dire est-ce que c'est de la norme juridique, de la norme sociale, quel sens ça a d'opposer les deux, est-ce que c'est quelque part entre les deux et tout.
Parce que par exemple, bon, le problème de se séparer.
Dans le communautaire, tu vois, ça.
Non,
dans les côtes, ça ramène juste la figure du district industriel ou quelque chose.
Non, c'est pas local.
Je sais pas ce que tu veux dire, mais.
C'est pas local. C'est pas local, c'est général, effectivement, c'est deux classes. Deux classes, ça va mieux.
Bah ouais, parce que quand on dit communautaire, dans ma tête, en tout cas, il y a une connotation de proximité qui fait que tu as des moyens de la faire respecter qui ne sont pas les mêmes, en effet, que si c'est sur des continents différents.
Non, c'est une solidarité de classe. C'est une loi des classes, c'est des règlements de classe. Quoi ?
C'est
un peu plus que ça.
Oui,
c'est plus dur que ça. Oui. C'est à la fois plus dur et plus général. Parce qu'il
y a quand même un truc différent pour un marchand, même un marchand que tu connais pas. Quoi.
Y compris quand tu es complètement d'extérieur du réseau. C'est pas le problème. Il y a des comportements collectifs qui sont identiques. Ça, c'est un premier point. Et je me souviens plus de ce que je voulais dire en deuxième point, mais c'est pas grave. Mais j'avais justement un truc. Ah oui, l'opposition juridique, fonctionnement. Alors ça, effectivement, parce que tu te dis, bon, c'est des normes qu'ils imposent collectivement. C'est une imposition collective, c'est véritablement, enfin moi je lis ça même quasi marxistement en fait. Bon, je suis désolé, mais ça se refait pas. Mais donc il y a vraiment une dimension presque de fonctionnement de classe. Donc en même temps, dire simplement que c'est non juridique, par exemple, ça fait l'impasse sur le fait que les processus juridiques qui vont être lancés à partir de ces normes sont dépendants des normes. C'est-à-dire le fait d'engager une action en justice est étroitement dépendante du fonctionnement collectif judiciaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on ne va pas se lancer dans une action en justice pour un comportement qui est accepté. À moins que, ce qui est le cas aux États-Unis à partir des années 1790-90, l'action en justice devienne en soi un comportement accepté. C'est bien le cas aux États-Unis. C'est-à-dire que l'action en justice devient un outil comme un autre d'interrelation entre professionnels qui n'a aucune connotation particulière. J'ai un cas de deux frères qui sont en affaire sur deux trucs, j'ai leur papier, c'est une compagnie de diligence, et au moment où ils sont en affaire, je sais qu'ils sont sur une ligne de diligence ensemble en train de la gérer, pendant que sur une autre ligne de diligence, il y a un méchant procès qui a été intenté par l'un à l'autre. sur les, et ça, ça, ça ne dissout même pas leur partenariat sur l'autre.
Alors qu'en France, moi j'ai vu dernièrement ce qu'on appelle la liste des négociants les plus remarquables pour le Conseil général du commerce, où j'ai vu plusieurs commerçants qui sont visiblement souffrent, même s'ils sont très riches et qu'ils ont des affaires prospères, souffrent d'un crédit assez faible,
chanson.
Parce qu'on les considère comme des gens procéduriers. Je ne sais plus quel est le terme de jeune, ça m'a échappé, mais il y a un adjectif pour dire quelqu'un qui passe son temps à faire des procès. Le préfet dans son tableau départemental a utilisé un mot que je n'avais pas compris, et aucun mot, le chef de salle m'a expliqué que c'était un mot de l'époque qui voulait dire quelqu'un qui passe son temps. Et en France, visiblement, c'est assez le même.
Oui, alors là, en revanche, là, je me demande si ça ne relève pas de la gestion politique.
Je pense que c'est le préfet qui le voit mal, mais qu'entre commerçants, ça se fait complètement.
Non, ça n'est pas dans cette liste-là, et que les clubs vont
parler commerçants. Ça peut changer,
Parce que pour donner en fait le crédit qui un tel a parmi ses collègues.
Non, ça, c'est la gestion politique au sens champ politique, c'est-à-dire que le champ politique français ne fonctionne pas comme le champ politique américain. Dans le champ politique américain, c'est pas un problème de se faire des procès.
C'est aussi qu'il y a les chicanés par rapport à ceux qui font normalement les procès comme on devrait, c'est-à-dire. Mais pas trop.
Alors voilà, ça suppose une bonne utilisation de la chicane.
Moi j'ai remarqué quand même que les procès, ils vont en procès entre le député et le citoyen, ils vont en procès que quand vraiment on a vraiment dépassé les limites de l'usage. Ouais. Parce que l'usage est beaucoup plus élastique que la loi, et généralement on va au point que j'ai remarqué, c'est qu'on allait en procès vraiment.
Ouais, alors que c'est le contraire aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un outil de négociation, y compris dans le cas, par exemple, de l'acquisition d'une compagnie. En 1820, j'ai des cas de bus qui essayent d'acquérir une route privée, et la première chose qu'ils font, c'est d'acheter les aides de la route aux particuliers, d'en faire un gros pas et déclencher un procès pour remboursement, pour améliorer leur position. Donc c'est pas rien de personnel. Bon, c'est un peu bus. Les autres bus, quand même. Mais tout le monde comprend libéralement les tribunaux. Bon, ça doit finir aussi aux différences entre le droit romain et la common law, parce que c'est...
Ouais, c'est le droit romain quand il est interprété par des juridictions consulaires, c'est particulier. Tu vois, parce que les trucs, genre, il est pas flexible, il est pas proche des gens. Je veux dire que tous les collègues anglo-saxons qui écrivent ça, ils ont pas vu que ce qui a appliqué le code civil, c'était des marchands. C'est quand même un peu particulier.
J'ai vu des règlements de famille, c'est des règlements des familles du 19e, ils sont soumis au droit romain, mais c'est la même chose.
Typiquement, le tribunal de commerce, quand un banquier vient massivement faire payer tous les gens qui ne vont pas payer, si les gens ne viennent pas, en effet, ils sont condamnés par défaut, mais il va savoir si on les retrouve ensuite, mais tous les gens qui viennent et qui demandent un délai, l'obtiennent. Automatiquement, c'est un délai standard.
Ouais.
Donc bon, il y a la loi et après qui sont les juges.
J'avais juste pour rebondir sur la question des façons marchands ou non marchands, qui va compléter ce que je disais auparavant sur la question du capital. Ces opérations en capital, c'est sous-jacent depuis le début, ce sont des marchands qui sont autorisés à faire ce type d'opération et à avoir ce type de profit, qui est un profit où il y a un risque en capital qui légitime l'opération. Et qui autorise une forme d'investissement profitable qui échappe totalement à la question du dur. Mais ce sont les marchands. Et on arrive dans la fameuse question technique de gestion politique. Gênes à cette définition assez générale, à un moment où on dit tous les citoyens de Gênes sont supposés être des marchands.
Ils sont tenus pour
des marchands. J'apprends tous considérés comme des marchands. Je ne sais pas à quelle date, mais c'est ça tient qu'un bien, je pense. C'est plus un article de Savelle qui parlait de ça. Et c'est une façon de dire globalement la ville est exemptée de tout problème.
Et alors à l'autre bout de la période, les États fédérés américains en 1790, il y a deux types d'impôts, il y a un impôt foncier, il y a des impôts sur les activités marchandes, il y a un impôt, et même dans le deuxième, en tout cas de soleil, il y a un impôt, une capitation sur les marchands qui déclarent comme marchands.
Et donc sur cette histoire-là, des marchands, enfin comme un groupe qui, c'est vraiment une sorte de label qui autorise à faire certaines opérations et qui tient les différents membres de cette corporation pour se libérer les uns des autres. Et là, effectivement, il faut faire une histoire longue qui remonte au moins au 11e siècle.
c'est là vraiment où ça se fait.
C'est quelque part de la tour qui nécessite un investissement important d'une part et puis c'est fait en
ça peut, mais c'est pas seulement ça. Quand on a de les, parce qu'en fait, je sors de la zone de connaissance. Mais le phénomène le plus marquant, c'est justement ces consulats, c'est le mot qu'on emploie, des représentants d'une ville dans les différentes villes du marché méditerranéen, qui sont solidairement responsables des opérations de marchands de la même ville. Avec le des représailles, ainsi un marchand d'une ville est défaillant, c'est les autres qui sont tenus d'être solidaires avec lui, même s'ils n'ont aucun rapport commercial ou financier avec lui.
Et le système autour des foires de champagne n'est pas lié à un investissement de même nom, c'est une nature, enfin en termes de transport, c'est pas une maison à pied. Hein, donc,
bah, quand même ça.
Il y a une aventure.
Mais c'est pas le capital fixe qui pose problème.
D'accord.
Mais je peux vous proposer qu'un soit de reconcession avec ce fonctionnement, c'est celui de l'assurance, telle qu'elle se pratique à partir du 20e siècle.
Jusqu'à quel point
on a dit. Mais il y a effectivement là un fonctionnement de cartel, on s'assure qu'entre un certain petit cercle de gens qui se connaissent très bien, et il y a certains cas où une opération est clairement va à perte, et les gens assurent quand même, alors c'est évident qu'un bateau a déjà été chassé par des corsaires, il se réfugie en Angleterre, et la chance qu'il arrive à bon port est minime, mais les gens solidairement acceptent de mettre au cours, sachant que ça sera à perte, et à un taux relativement faible par rapport au risque réel. Donc c'est là où on vient ce fonctionnement de. Une sorte de confiance aveugle, mais qui va de pair avec une exclusion, parce que c'est une créature de retrait dans les égaux, c'est pas du tout un. C'est pas un marché ouvert, du tout, pas jusqu'à une chance, c'est pas l'assurance.
Oui,
c'est
une name de Loïs.
Oui, il faut être quelqu'un et avoir un certain crédit, et même si on se plante, on est en garde son crédit.
Moi j'ai fait avec l'escompte, le fichier d'escompte avec le compte de l'Église où tous les négociants français et les principales villes d'Europe sont fichés en fonction du crédit, de la confiance qu'ils ont, qu'ils jouissent dans leur secteur d'activité. Et en dessous d'une certaine note, dès qu'on a la dose, on est accepté, les décrets sont acceptés et au niveau ils sont projetés.
Je peux prendre une petite pièce, c'est dans le traité de Pétion, donc c'est 1494, c'est en français, je ne sais pas italien. De même, l'honnête commission. L'honnête commission perçue sur les lettres de change est toujours considérée comme disciple. Même lorsqu'il n'a pas été couru de risque de voyage, mais que la traite a été négociée. Donc là, il y a quand même un basculement aussi. L'honnête commission, mais c'est seulement pour les échanges, c'est très simple. C'est pas que la.
Oui, il y a des tas de rémunérations annexes qui peuvent être acceptées parce qu'il y a un travail, il y a une activité. Donc, on rémunère une activité, ça fait
difficile. Mais il y a une discussion, bon, là.
Oui, bien sûr, on peut débattre. Donc,
mais tout le monde n'est pas d'accord, il semble même à.
Ça peut être légitimé aussi d'une industrie, d'une activité particulière, d'une opération de
change. Il faut une opération de change, il faut que ce soit pour valeur.
C'est la commission.
C'est la commission.
La commission, c'est le pourcentage fixe qui est pris pour encaisser ou pour quand on prend les lettres de change. C'est l'escompte qui est entré à quelque chose sur la durée, c'est en plus.
Ça, non.
Quel est le terme qui
est important ? La commission, c'est un pourcentage fixe que prendra un banquier ou un marchand pour accepter la lettre de change, quelle que soit la durée. Non. Quelle que soit la durée.
Les fonds dépendent de la durée.
Oui, il y a eu longtemps. Mais la commission, c'est le pourcentage minimum qui est parti même sur une très très importante.
Des endroits où on parlait de gens qui me protestaient en disant qu'en fait pas du tout.
Oui, c'était caché.
Le sujet était toujours caché, tout ça était des typos, il fallait punir des
gens. Oui, mais c'est pas toi.
Oui, mais bon.
Mais il faut me présenter la même chose. Hein. De même, la question de. Dans la banque à terre, il y a des
y a beaucoup d'auteurs dont on considérait longtemps que tout le monde à terme était un très caché.
Voilà.
Et alors que, enfin, précisément, d'autres auteurs considèrent au contraire, non, c'est parce que ce son doit présumer que c'est une vraie vente à terme.
C'est une modalité parmi
deux. Il
y a beaucoup de lectures très différentes de même auteur.
Ah oui, mais lui, il est
non, mais là. C'est tout le temps une requalification de l'opération après coup. C'est-à-dire on se demande après coup, est-ce que cette chose-là, une fois que le contrat a eu lieu, on l'observe, on dit, qu'est-ce que c'était en début de contrat, le contrat.
La ville dit c'est crédible, hein, oui. Sans mauvais jeu de mots. Il dit que c'est à partir de que c'est automatiquement le
test.
Et je pense qu'effectivement, ce ne serait pas nécessairement l'avis de tout le monde, en fait.
Non,
compris à son époque.
Je le vois comme produisant un écart nouveau.
Ouais, ouais. Par rapport à la norme, tout à fait.
Et je pense que c'est dans la ligne de ce que vous dites, à propos de ce genre de l'origine, mettre en place quelque chose qui s'habitue là.
Ouais. Peut-être continuer la discussion dans le couloir, pour ceux qui voudront.